Dans la prédication de ce matin, je vais surtout m'adresser aux parents. Mais j'espère bien que chacun pourra en retirer quelque chose, que nous ayons ou non des enfants. Nous allons parler de transmission, et plus particulièrement de transmission de la foi dans la famille. Même si nous n'avons pas d'enfants, nous pouvons avoir un rôle dans la transmission de la foi, en tant que tonton, tata, papy, mamie, parrain, marraine, moniteur ou monitrice du culte des enfants, etc. Dans notre société actuelle, la transmission entre parents et enfants est un véritable défi. Qu'il s'agisse de transmettre de bons principes de politesse, le respect du prochain ou bien les règles du savoir-vivre en famille, la tâche des parents nécessite patience et persévérance. Je me souviens d'un appel téléphonique de ma grand-mère il y a environ 25 ans où elle posait la question suivante. « Devinez d'où je vous appelle ?»« Je vous appelle de mon jardin. » On était très étonnés et émerveillés qu'elle puisse appeler depuis son jardin à 20 mètres de la maison avec un des premiers téléphones fixes sans fil grand public. Aujourd'hui, nos enfants sont nés avec Internet, le téléphone portable et les tablettes. Ces changements se sont passés très vite, en 30 ans à peine, et le monde en a été changé. Alors comment transmettre des valeurs solides, notamment pour de bonnes relations humaines durables, dans un monde de plus en plus marqué par le virtuel, l'éphémère et où les distractions sont nombreuses? Déjà au XVIIe siècle, le philosophe Blaise Pascal disait qu'il vivait dans une société de distractions. Alors qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Je dis « nous » parce que j'ai moi-même 4 enfants, comme vous le savez, entre 1 et 10 ans, et donc je connais déjà un peu le défi que représente l'éducation des enfants dans notre monde. Dans quelques années d'ailleurs, j'aurai bientôt la joie de connaître les relations parents-ados. Et s'il n'est pas évident de transmettre de bons repères à nos enfants, il est sans doute encore plus difficile de parler de la foi, y compris en famille. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous avons cela à cœur. Nous savons qu'il n'y a pas que de bons repères dans la foi, mais une vie abondante à trouver, une personne à connaître, Jésus-Christ. Quelqu'un a dit que nous ne sommes jamais qu'à une génération de l'extinction de l'Église. Cela signifie qu'il nous appartient de transmettre notre passion pour Jésus-Christ à la génération suivante. Si l'Église existe depuis près de 2000 ans, c'est bien sûr car Dieu lui-même y veille, mais c'est aussi parce que des croyants fidèles ont transmis l'héritage de la foi à travers les siècles et dans le monde entier. Lorsqu'on regarde l'histoire du christianisme, on est surpris de voir qu'au tout départ, après la mort et la résurrection de Jésus, il n'y avait qu'une poignée de disciples, dont la plupart étaient très modestes, de simples pêcheurs de poissons en Galilée. Mais voir les choses uniquement comme cela, ce serait oublier l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs et qui donne la foi à celui qui cherche Dieu avec persévérance. Oui, l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs et pour cela, il utilise souvent la parole de Dieu, la Bible. Que nous conseille d'ailleurs la Bible pour la transmission de la foi à nos enfants? Je vais lire un des passages de la Bible où il est question de la transmission de la foi au sein de la famille. Ce passage a été écrit il y a plusieurs milliers d'années par Moïse pour le peuple d'Israël. Et on peut lire cela en Deutéronome 6, les versets 4 à 9. Et je vous en fais maintenant la lecture. « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Le premier point qui me semble incontournable pour transmettre et vivre la foi au sein de la famille, c'est de vivre sa foi de façon authentique devant ses enfants. Aujourd'hui, la société nous pousse à vivre la foi uniquement de façon individuelle, mais ça n'est pas la vision biblique de la foi. La foi se partage comme un trésor qu'on ne veut pas égoïstement garder pour soi. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de vivre notre foi, notamment dans le cadre de la famille, avec nos enfants. Mais comment ? Donc, premier point, vivre sa foi devant ses enfants en aimant Dieu. C'est au moment d'entrer dans la terre promise que Moïse rappelle les lois données par le Seigneur dans le désert. Juste avant le texte que nous avons lu, Moïse répète les 10 commandements que le peuple accepte avec enthousiasme. Puis il interpelle les Israélites, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » En hébreu, la formule est connue, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Ce passage débute par un « Écoute », car on ne peut communiquer aux autres que ce que l'on connaît vraiment. Ensuite vient un commandement important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus dira qu'il s'agit du plus grand commandement avec celui d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Le cœur représente l'intérieur de l'homme au sens large, toutes les dimensions de la personnalité humaine, dont l'intelligence et la volonté. Aimer Dieu de toute notre âme. L'âme est plutôt le siège ici des émotions, des sentiments. Et enfin, aimer Dieu de toute notre force. Cela implique la force physique, les ressources physiques et donc les actes. Le but de notre vie chrétienne est de découvrir et d'aimer Dieu en priorité et de développer cet amour plutôt que l'amour de nous-mêmes, de l'argent ou de la gloire. Dans la perspective biblique, pour réussir sa vie, il est plus important d'aimer Dieu que d'avoir beaucoup de richesses. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Cela implique de chercher à connaître Dieu, de vivre selon sa volonté, de vivre avec lui. Communiquer la passion de l'amour de Dieu est un privilège, même si nous y consacrons de l'énergie et du temps. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, disait un certain Asaph, musicien du temps du roi David. Avant de chercher à transmettre quoi que ce soit, montrons à nos enfants que nous aimons Dieu. Deuxième point, vivre sa foi devant ses enfants en aimant la parole de Dieu. Et ce que nous entendons par parole de Dieu, c'est la Bible qui révèle qui est Dieu. Nous appelons la Bible « parole de Dieu » car dans ce livre, Dieu parle à l'humanité. Il communique qui il est, car il a lui-même inspiré les différents auteurs, plus d'une quarantaine d'auteurs différents, sur 15 siècles. Le passage que nous avons lu nous recommande de garder ces paroles dans notre cœur. Et le Nouveau Testament confirmera cela lorsqu'il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Si la parole de Dieu demeure en nous, notre vie sera transformée et cela orientera aussi notre façon d'éduquer nos enfants. Avant de chercher à transmettre la foi, il faut donc avant tout vivre authentiquement sa foi. Nous serions hypocrites si nous souhaitions transmettre à nos enfants quelque chose que nous ne vivions pas. Ça serait même déstabilisant pour nos enfants de leur dire « Faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais ». Bon nombre d'enfants ont refusé la foi parce qu'ils ont vu dans leurs parents ou alors dans l'Église une hypocrisie monumentale. La foi se transmet dans l'authenticité et dans l'amour. La foi ne s'impose pas, car l'amour ne se force pas. Je voudrais prendre ici une illustration tirée du film Bruce Tout-Puissant. Alors Bruce, dans ce film, il reçoit tous les pouvoirs de Dieu et il peut faire vraiment beaucoup de choses, quasiment tout ce qu'il veut. Mais il y a une règle, il ne peut pas affecter le libre arbitre d'une personne. Et il tombe amoureux d'une fille et il veut que cette fille l'aime. Alors il tend ses mains vers cette fille et il dit « Aime-moi, aime-moi !» Et cela est suivi d'aucun effet. Et à ce moment-là, il se tourne vers Dieu dans une prière Et il dit, mais comment faire pour que les gens nous aiment sans affecter leur libre arbitre? Et Dieu répond, bienvenue dans mon monde. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer Dieu ou aimer la parole de Dieu, mais on peut montrer l'exemple. Voici donc quelques préalables à la transmission de la foi. Aimer Dieu, aimer la parole de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Notre responsabilité en tant que parents est aussi d'enseigner la foi à nos enfants. Enseigner la foi à ses enfants, tout d'abord en formant la pensée. Le Deutéronome dit en parlant des commandements, « Tu les inculqueras à tes enfants ». Le verbe « inculquer » a une connotation négative en français. C'est presque l'équivalent de « tu forceras tes enfants ». Je viens de dire à l'instant qu'il ne s'agit pas de forcer. Mais en regardant de plus près, et surtout dans l'original en hébreu, ce n'est pas tout à fait la portée du terme utilisé. Le verbe hébreu signifie littéralement « aiguiser ». Tu aiguiseras tes enfants par ces commandements. Ce terme évoque plutôt un enseignement pointu qui met le doigt sur des problèmes précis. Certaines traductions mentionnent d'ailleurs simplement l'enseignement. Mais le terme hébreu contient l'idée peut-être d'un enseignement qui aiguise la pensée et la pratique. Le père et la mère ont ce devoir d'enseignement vis-à-vis de leurs enfants. Nous trouvons cela dans plusieurs passages de la parole de Dieu, notamment Proverbe 6, verset 20. Aujourd'hui, il est vrai que l'école joue en partie aussi un rôle éducatif. On parle de l'éducation nationale aujourd'hui, alors que jusqu'en 1932, on parlait seulement d'instruction publique. Ce que la Bible affirme très clairement, c'est que c'est aux parents, premièrement, que revient la charge et la responsabilité, mais aussi la joie d'éduquer leurs enfants. Aucun des parents ne devrait démissionner de cette responsabilité sous prétexte que l'autre parent n'est pas très motivé à le faire ou sous prétexte que c'est à l'école d'assurer cette mission. Comment faisons-nous pour enseigner, transmettre la foi à nos enfants? Le psaume 78 dit ceci, les versets 5 à 7. Dieu a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements. La transmission de la foi passe par le dialogue, par des moments en famille où le papa et la maman peuvent partager leur foi, parler de ce qu'ils connaissent de Dieu. Ce sont des moments où nous pouvons lire un passage de la Bible, chanter un chant et prier ensemble. Bien sûr, le contenu de ce temps, qu'on appelle quelquefois le culte de famille, sera adapté à l'âge et au niveau de compréhension des enfants, ainsi qu'au rythme de vie de chaque foyer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de nombreux outils pour nous aider à vivre de tels moments en famille. Alors peut-être que vous vous dites, mais c'est du bourrage de crâne tout ça. Et je souhaiterais répondre à cela que d'une part, ça peut être un bon moment pour la vie familiale, et que d'autre part, si nos enfants ne se remplissent pas de la parole de vie, bien d'autres choses prendront alors place dans la tête de nos enfants et dans leur cœur. Ce n'est pas un formatage, mais une formation de la pensée pour qu'un jour l'enfant puisse faire un choix éclairé quant à la foi. La foi, ça n'est pas les stéréotypes que la société véhicule sur la foi. Par exemple, on peut faire de la musique moderne dans nos cultes pour louer Dieu. Le chrétien n'a pas nécessairement une mine austère. Il est porteur d'espérance et de joie. Si je veux bien connaître la passion d'un de mes amis, ou d'un de mes voisins, ou un de mes collègues de travail, il faut que je puisse l'entendre parler de sa passion, voire même, pourquoi pas, de la vivre avec lui. Cet été, j'ai eu l'occasion de discuter avec un joueur de tennis qui est aussi professeur de tennis. Et il m'a décrit ce qui se passe dans le mental d'un joueur de tennis. La concentration, le placement, les coups manqués, ce qu'il peut ressentir à ce moment-là, etc. Rien qu'en l'écoutant raconter son expérience, j'ai compris sa passion. Si je n'avais pas pris le temps de l'écouter, J'aurais pu me dire qu'il faut être bizarre pour aimer à ce point courir après une balle et essayer de la faire atterrir de l'autre côté du filet. C'est en formant la pensée de nos enfants, en leur partageant notre expérience de la foi en Dieu, que nous leur donnerons des éléments fondamentaux afin qu'ils puissent savoir ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas. Et quand ils seront en âge de faire des choix pour leur vie, c'est en connaissance de cause qu'ils pourront à leur tour suivre Jésus-Christ ou bien choisir de ne pas le suivre. Mais pour cela, il faut le connaître, et pas seulement avec des stéréotypes et des idées toutes faites. Et maintenant, enseignez la foi à ses enfants en étant constant. Nous lisons encore, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce à dire que Dieu veut que nous soyons une sorte de moulin à paroles ? Non, bien sûr. Il s'agit plutôt de saisir toutes les opportunités de la vie pour en tirer des leçons spirituelles. Voici quelques exemples. L'arc-en-ciel nous rappelle l'histoire de Noé, par exemple. Un arbre peut être l'occasion de parler d'être enraciné, fondé en Dieu. Les fourmis dans une fourmilière peuvent nous rappeler que nous travaillons sous le regard de Dieu et que chacun a de l'importance et que nous vivons dans la complémentarité les uns avec les autres. Dans la Bible, nous avons quantité d'images du quotidien qui peuvent nous parler, quelle que soit l'époque ou le lieu. Et à nous aussi d'être créatifs et de voir, même au-delà de certaines images qui sont reprises dans la Bible, ce qui, dans notre vie, tout simplement, peut servir d'illustration pour transmettre des éléments de foi à nos enfants. Il est important de ne pas détacher la foi de notre vécu ni de nos circonstances. Alors peut-être vous dites-vous, et si mes enfants ne veulent pas de tout ceci ? Rappelons-nous deux choses. Premièrement, ça n'est pas aux parents de convaincre le cœur de leurs enfants. Seul Dieu peut le faire. Et deuxième chose, il ne faut pas confondre respect de la foi familiale et adhésion personnelle à la foi. En tant que parents, par exemple, nous avons le droit d'imposer à nos enfants de venir au culte, du moins jusqu'à un certain âge, car cela fait partie de la vie de la famille. L'éducation passe par des étapes de l'enfance à la maturité. J'ai lu ceci. D'abord, nous commandons l'enfant. Ensuite, nous influençons l'adolescent. Ça, c'est plus fin. Puis enfin, nous libérons la volonté du jeune adulte. Si la responsabilité de parents peut nous paraître lourde, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. D'autres parents sont passés par là avant nous. Et nous pouvons d'ailleurs prendre conseil auprès d'eux. Mais surtout, Dieu est avec nous pour nous soutenir dans notre tâche de parents. Car dans tout cela, Dieu est avec nous. Dieu souhaite bénir des familles entières, et pas simplement un homme seul, une femme seule, des parents seuls ou des enfants seuls. Le livre des Actes en témoigne à plusieurs reprises. Deux exemples, rien que dans le chapitre 16 du livre des Actes. Dans le cas de Lydie, nous voyons l'influence qu'elle a eue dans son foyer. Elle a cru et sa famille s'est tournée vers Jésus-Christ. Acte 16, versets 14 à 16. Et un petit peu plus loin, la réponse de Paul et Silas aux gardiens de la prison de Philippe est aussi encourageante. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Puisque tel est le désir de Dieu, confions-nous en sa grâce pour qu'il se fasse connaître à nos enfants. Soyons persévérants dans la prière pour nos enfants. Nous ne sommes pas seuls à affronter le défi de la transmission de la foi. Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera pas. Car en définitive, c'est son plan qui s'accomplira. Amen.